sens de la vie.
Bonjour, bienvenue dans le bout du monde. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, à quelques kilomètres de la radio, dans un endroit en deux temps, rue Gutenberg, dans l'un des centres Tapovan de France, un centre créé, fondé par le pionnier de l'Ayurveda en France, en Europe. Bonjour, Kerian Vass.
Bonjour.
En un souffle, j'ai dit Ayurveda, comme si tout le monde connaissait ce mot. Est-ce que ça veut dire? C'est un trésor indien, c'est une science millénaire. Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda, Kerian Vass?
Alors, tout d'abord, il y a deux très grands dons de l'Inde à l'humanité, le yoga et l'Ayurveda. Le yoga, maintenant tout le monde commence à connaître plus en plus, et spécialement grâce à cette journée internationale du yoga, où maintenant milliers de personnes qui pratiquent le yoga. L'Ayurveda, un peu moins connu en Europe, mais depuis les années 76-78, j'ai commencé à en parler ici en Europe et en 1982, j'ai fondé Tapovan, le centre de l'Ayurveda, spécifiquement pour répandre le message de l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda en Inde est une médecine, mais en même temps c'est une philosophie et un art de vie. C'est-à-dire comment vivre la vie pour être heureux, pour être dans l'état de bonheur, pour être dans l'état de non-malheur ou maladie. Maladie, c'est quelque chose qui nous gêne pour vivre bien. Et c'est pourquoi on va essayer que la maladie ne vienne pas vers nous. Et c'est pourquoi la prévention va jouer un rôle très important dans l'Ayurveda. Mais il y a le côté guérison aussi dans l'Ayurveda. Il y a le côté prévention. Et puis, il y a le côté comment maintenir notre santé, notre bien-être et notre état d'âme. Et ça sera pour tous les jours.
C'est ça qui est fascinant parce que c'est une science millénaire et cependant très actuelle qui doit se renouveler, j'imagine. C'est une science globale. Elle prend tout en compte.
Absolument. C'est une science, c'est une connaissance et en même temps, je dirais que c'est une philosophie. Parce que très souvent, dans la science, on a envie de rester que le côté matériel. Et l'Ayurveda nous dit que l'être humain n'est pas matériel. Peut-être les organes qui se trouvent à l'intérieur de nous, c'est vrai qu'il y a la matière, il y a la substance, mais en même temps, ce que nous appelons la vie. La vie, c'est quoi? Quelle est la différence entre quelqu'un à l'instant présent et vivant et l'instant d'après, quand il est mort, il y a le même corps. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est cette énergie de la vie, cette étincelle de la vie. Et c'est pourquoi l'Ayurveda, quand ça prend en considération ces éléments plus subtils, plus métaphysiques, et en même temps, avec la même sorte de ferveur scientifique, même pour ces concepts métaphysiques, parce que cela applique à notre santé. Et c'est pourquoi je dirais que c'est une philosophie, mais en même temps, pour moi, c'est une véritable science. C'est un véritable art de vie.
Kerian Vass, nous sommes liés au monde, c'est un peu ce que dit l'Ayurveda. Et cependant, c'est une science qui va faire attention à la personne et à l'individu.
Alors, l'Ayurveda est basé sur deux sortes d'hypothèses de base. Premièrement, qu'il y a cinq éléments, cinq grands éléments, comme la terre, l'eau, le feu, l'air, et l'éther, ou le ciel. Ce sont les cinq éléments. Et d'autre part, il y a cinq corps. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel ou vital, il y a le corps mental, il y a le corps psychique, et il y a le corps spirituel. Alors il y a d'un côté cinq éléments, et puis cinq corps. L'Ayurveda et le yoga, les deux, acceptent cette philosophie de base que nous sommes tous faits de ces cinq éléments. Alors quelqu'un qui a beaucoup trop d'éléments air et avec l'élément éther, en proportion plus, on va appeler cette personne Vata. Personne Vata signifie c'est une personne qui a une nature aérienne, qui aime bien imaginer des choses. Comme l'air, cette personne aime bien bouger, cette personne aime bien être dans l'état de voyage. C'est constamment le mouvement. Ça, c'est Vata particulièrement. Après, il y a la nature Pitta, ou l'élément feu qui prédomine. Et quand l'élément feu qui prédomine avec l'eau, la personne a une nature un peu colérique, comme le feu. Le feu indique aussi que la personne a une intelligence, mais c'est une intelligence qui essaie de voir des détails, qui essaie de voir aussi les problèmes ou, disons, des fautes des autres et a envie de même critiquer les autres, parce que quand quelqu'un qui est un peu intelligent a toujours envie de faire sentir aux autres que tu n'es pas intelligent.
Avec des caractéristiques à double tranchant, on va avoir le positif et le négatif.
Exactement. Alors, une personne Pitta, c'est typiquement ça. Mais il y a le bon côté aussi de Pitta, c'est que ce sont des personnes, quand ils arrivent à transformer leur colère ou leur susceptibilité ou leur cette tendance feu avec, comment dire, la musique par exemple, ou la peinture, les artistes, les poètes.
Mais très créative.
Très créative. La créativité va transformer l'élément feu dans quelque chose de magnifique. Et troisième nature, c'est la nature kapha, c'est-à-dire où il y a l'élément terre qui prédomine, c'est la lourdeur. Mais la lourdeur signifie aussi la stabilité.
La constance.
La constance aussi. Mais en même temps, d'une façon générale, on dit « Oh, c'est une personne kapha », veut dire qui aime bien manger, bien dormir, qui est un peu arrondi, hein, où le poids ne se dérange pas à la personne. Et quand cette personne est à la plage, 20 minutes côté pile, 20 minutes côté face, c'est génial pour cette personne. C'est-à-dire, c'est le bon vivant, c'est la nature kapha.
Donc on va avoir ces trois types de personnalités. Ce sont des doshas.
Ce sont des doshas.
Mais comment est-ce qu'on les diagnostique? Est-ce qu'il y a un examen particulier qui permet d'aboutir justement à la définition du type auquel un individu appartient?
Absolument. Les trois doshas, tout d'abord, il faut bien comprendre que nous sommes tous un mélange. On n'est pas un pur type Vata ou pur type Pitta ou Kapha. Ça pourrait arriver, mais quand même, il y a toujours un petit mélange. Quelqu'un qui est Vata Pitta, quelqu'un qui est Pitta Kapha.
Heureusement, j'ai envie de dire.
Absolument, heureusement, sinon ça...
Puis ça doit évoluer en plus, au fil de la vie, au fil, en fonction de l'âge et des saisons.
C'est-à-dire, oui et non. Dans le sens que fondamentalement, on est à l'intérieur... Ce sont des doshas fixes pour nous, mais au fil des jours, selon les circonstances, on va réagir différemment, on va s'ajuster différemment, et c'est ce qu'on va appeler une certaine sorte d'évolution. Et puis, selon l'Ayurveda, il y a trois périodes de la vie, c'est-à-dire pendant la petite enfance, c'est le kapha qui prédomine, dans le sens qu'on a plus de problèmes de mucus, des rhumes, etc. Puis après, pendant l'âge adulte, on a plus de l'influence de pitta. Alors c'est aussi les problèmes digestifs, problèmes de colère, etc. qui va jouer. Et puis, plus que 50 ans ou 60 ans, et ça, ce sont des problèmes de Vata. Ça nous donne des douleurs d'arthrose, d'arthrite et des choses comme ça. Alors, ce sont des influences d'une façon classique. Mais chacun pourrait varier selon les effets, selon sa propre nature, selon aussi les exercices qu'on fait, selon la nourriture qu'on a consommée.
On va en parler, évidemment.
Exactement. Tout va tourner autour de la nourriture. Vous allez voir que selon l'Ayurveda, premier point de la santé, c'est quand même la nourriture. Le diagnostic se fait par des sortes de questionnaires. Ça, c'est la première chose. Après, ça pourrait se faire en regardant la personne, comment sont les yeux, comment est le nez, comment est la couleur de la peau, comment est la sensation, comment sont les ongles, comment est la langue. C'est-à-dire, il y a une observation clinique. Et puis, après, on prend les pouls. Alors, les pulsations n'est pas simplement diagnostic, on est vivant ou non. Ce n'est pas simplement compter combien de pulsations par minute, mais c'est beaucoup plus sentir comme il y a les trois doigts qui se posent. Alors, sous chaque doigt, on a la sensation de vata ou de pitta ou de kapha. Et ça se multiplie encore trois fois dans le sens que il y a soit le mouvement, un peu comme le serpent qui glisse, à ce moment-là, on va dire que c'est une personne vata. Si on a la sensation comme une grenouille qui saute, à ce moment-là, on va dire que c'est une personne pitta. Et si on a la sensation comme un cygne qui glisse calmement sur un lac paisible, à ce moment-là, on va dire que c'est une personne kapha. Et ceci sous trois des points précis, et c'est pourquoi ça donne des variations. Et on pourrait comprendre un petit peu ce qui était le passé de la personne, et depuis quand le problème est là, ou quelle est la nature de la personne, d'une façon très profonde.
On a commencé à en parler. L'alimentation, la manière dont on se nourrit, c'est une des pierres angulaires de l'Ayurveda.
Oui, moi j'appelle ça que dans l'Ayurveda, il y a trois vecteurs de santé, dont le premier vecteur, c'est la diététique ou la nourriture ou l'alimentation. Deuxième vecteur de santé, c'est comment on vit la vie, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche, quel est le climat dans lequel on travaille, avec qui on travaille, quelle est l'atmosphère qui règne pendant le travail, ainsi, quelle est l'atmosphère à la maison, si on s'entend bien avec tous les membres de la famille, si on s'entend bien avec les voisins, ou s'il y a un stress, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ça, on va dire que peut-être que c'est important, peut-être pas, non, mais pour la santé, c'est très important. La chaleur, le froid, tout ça aussi, ça nous influence. Même les couleurs, ça nous influence. Quelle est la couleur qu'on porte soi-même, quelles sont les couleurs autour de nous. Alors, comment on vit la vie va jouer un rôle important pour nous. Même si on a un travail, mais si on n'aime pas ce travail, et pourtant, pour gagner sa vie, on est obligé de faire, alors on se force. Et en même temps, à l'intérieur de nous, on est en train de dire, oh là là.
Oui, c'est ça, il y aura forcément des sentiments de stress,
exactement,
d'acceptation ou non d'une situation. Vous aviez parlé de trois éléments dans la vie, donc l'alimentation, la façon dont on
vit la vie. Et le troisième, quel est notre état d'esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes? Quels sont les sentiments? Il y a des personnes, par exemple, qui ont essayer de voir tout d'une façon positive. Et il y en a d'autres qui vont essayer de voir ou qui voient toujours d'une façon négative. Le verre demi-plein, demi-vide, c'est l'exemple classique. Mais des attitudes positives vis-à-vis de la vie, ça joue un rôle important, et les attitudes négatives. Et puis, selon l'Ayurveda, plus en plus, si on pourrait devenir calme et paisible, cela va nous aider pour la santé, cela va nous aider aussi pour le bien-être et même pour la beauté.
D'où le yoga, d'où la méditation,
exactement,
ça rentre en ligne de compte. Une vision globale, tout le temps. Et tout rentre en ligne de compte. Et l'alimentation, forcément, on va s'alimenter. Mais avant que vous nous expliquiez, on va peut-être écouter quelque chose, un morceau,
oui,
hein, qui est un mantra. Que
oui,
nous a chanté
Falguni.
Falguni, un mantra autour de la nourriture. Qu'est-ce que dit ce mantra? Il y a donc un texte antique très ancien.
Alors, il y a un des mantras qui dit que je suis le créateur du monde, mais je suis le feu, l'élément feu, et que je digère tout. Et le corps humain, c'est aussi moi. Et ce n'est pas une certaine sorte de poubelle où on pourrait jeter tout. L'alimentation devrait me nourrir. C'est pourquoi ce que vous mangez est quelque chose de très important. Puis il y a un deuxième mantra qui dit Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahviryam Karvavahe. C'est-à-dire, moi et mon fort intérieur, ou moi et l'absolu, il faut qu'on soit ensemble. On va se nourrir ensemble. Et ce n'est pas nourrir que le corps, c'est aussi nourrir son fort intérieur.
Om Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Dehamashita Pranapana Samayukta Pachamyannam Chaturvidham Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavati Tamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Bhur Bhuvasvaha Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti.
Vous nous rejoignez, vous êtes sur RFI, nous sommes avec Kiran Vyas au centre Tapovan à Paris, l'un des centres puisqu'il y en a également un en Normandie, et nous parlons évidemment de l'Ayurveda, cette connaissance de la vie, une science pour arriver à vivre mieux, peut-être plus longtemps aussi, dont l'un des piliers repose sur l'alimentation et la manière dont on se nourrit. Comment s'organise déjà cette alimentation? Parce qu'on a parlé des doshas, on a parlé des natures profondes de chaque individu. Est-ce que ça veut dire qu'en fonction de ces natures profondes, on doit choisir son alimentation? Et si tout est équilibré, tout est apaisé, à ce moment-là, le corps va bien, l'esprit va bien, et donc la maladie s'éloigne, a priori.
Absolument. En réalité, selon l'Ayurveda, la maladie, en principe, elle est timide. Elle ne vient pas nécessairement tout de suite. Il faut l'inviter et il faut insister sur l'invitation. C'est une façon un peu bizarre de dire, mais...
C'est concret.
Mais c'est concret dans le sens que si on vit une vie quotidienne correctement, la maladie ne peut pas entrer chez nous. Mais si on fait des choses de travers. Si on mange n'importe quoi, à n'importe quelle heure, si on dort n'importe quand, si on ne dort pas, on reste éveillé. Si on exagère dans notre vie, ça c'est la façon d'inviter la maladie, dit l'Ayurveda. Alors, pour revenir à l'alimentation purement, on va dire que l'Ayurveda, son premier vecteur de santé, qui est l'alimentation, il faut que cette alimentation nourrit le corps tout entier, pas seulement l'estomac, mais que ça soit utile pour les différents organes, c'est-à-dire le foie, les poumons, les ceci, les cela, ainsi que pour tous les systèmes, que ça soit le système respiratoire, que le système circulatoire, que c'est le système du cerveau ou disons des systèmes nerveux. Et au-delà de cela, il faut qu'on soit nourri aussi au niveau émotionnel, au niveau des cinq sens, c'est-à-dire par les yeux, on est nourri avec des images qui sont magnifiques, ou les oreilles sont nourries avec une belle musique, ou que la langue est nourrie avec quelque chose qui a un bon goût, ou le nez est nourri avec des parfums ou des choses comme ça. C'est-à-dire que nous sommes nourris des cinq sens, nous sommes nourris de plein de belles choses, et selon l'Ayurveda, quand on mange quelque chose, le premier travail qui se fait, c'est la transformation avec l'aide de l'élément feu ou agni, comme dit le mantra tout à l'heure, et cette transformation sera dans rasa. Rasa veut dire le jus nourricier. Et ce jus nourricier, au niveau physique, ça va aller et ça va se transformer après dans le sang, rakta. Et ce sang, selon l'Ayurveda, j'étais émerveillé pour la première fois quand j'ai lu ça, que l'Ayurveda qui a été écrit il y a 5000 ou 10000 ans, mais on disait que votre sang doit être parfait. Il ne faut pas que ça soit vicié. Et puis on donnait l'exemple qu'il ne faut pas que dans le sang il y ait trop de sucre, ni trop peu. Il ne faut pas trop de globules rouges, ni trop peu. Il ne faut pas trop de globules blanches, ou il ne faut pas trop de magnésium, trop de ceci, ou moins de cela. C'est-à-dire l'équilibre de toutes ces substances. C'est extraordinaire que même il y a tant d'années, ils avaient pu analyser le sang, peut-être pas aussi détaillé qu'aujourd'hui, mais les médecins ayurvédiques savaient que le sang, qui n'est pas visible comme ça, mais la santé du sang jouait un rôle important pour notre santé générale, fondamentale.
Bien sûr.
Alors, ça, c'est la transformation. Et comme ça, ainsi de suite, les transformations qui se font, mais c'est l'alimentation qui va jouer le rôle important. Alors, dans l'alimentation physique, ils disent qu'il faut minimum 3 choses. Les céréales, les légumes et des légumineuses. Alors, les céréales, ça donne des hydrates de carbone, comme le riz, comme du blé, comme quinoa, et toutes ces céréales. Après, il y a des légumineuses, comme des lentilles, comme des mungos, ou des soja, puis des haricots.
Des pois chiches.
Pois chiches, voilà. Alors, tout ça, ça va nous donner des légumineuses, principalement des protéines. Et troisièmement, des légumes. Plutôt des légumes verts. Alors cette trinité devrait être observée dans une diététique ayurvédique.
Ça c'est dans la qualité des aliments. Je crois qu'en termes de saveurs, on retrouve 6 saveurs.
Oui.
Ces saveurs, faut-il les retrouver systématiquement dans un repas? Est-ce que ça fait partie de cet équilibre?
Tout à fait. L'équilibre des 6 goûts ou les saveurs vont jouer un rôle important. Maintenant, quand on parle équilibre, cela ne veut pas dire les 4/4 bretons qu'autant de sucre, qu'autant de beurre, qu'autant de farine, dans le sens que les 6 saveurs sont d'abord acides, puis il y a sucré, ce sont les 2 choses qu'on aime bien quelquefois, puis il y a le goût salé, puis il y a le goût piquant, puis il y a le goût acre, qui n'est pas très très connu d'ailleurs, et puis l'amer,
qui est fondamental, je crois.
Qui est fondamental. Toute la santé est basée sur ce goût amer. Et quand on prend ce goût amer, ça élimine plein de maladies. Et la plupart des médicaments aussi seront très souvent très amers.
Et on va essayer de retrouver chacun de ces goûts à chaque repas. C'est important que les 6 goûts soient présents?
Au moins dans la journée. Mais quand même, dans l'Ayurveda, le goût sucré ne devrait pas être dans la matinée. Et j'étais content, l'autre jour, une scientifique qui m'a expliqué que le sucre pris dans la matinée, ça a dégénéré tout le système de santé. Et bon, il y avait toute une explication scientifique, il y a le taux d'insuline qui augmentait, puis surtout ceux qui étaient diabétiques, ça a augmenté leur diabétisme énormément. L'Ayurveda conseille, par exemple, un petit déjeuner salé.
Alors, en prenant une photo, bien sûr, de ce qu'on a devant nous, donc ces plateaux avec les épices, ça participe justement à apporter des saveurs, à apporter...
Les épices jouent le rôle important d'équilibrer et augmenter ou diminuer les effets de telle ou telle chose. Par exemple, les graines de moutarde, ça augmente le feu. Le feu augmenté veut dire que ça augmente le pouvoir de digérer.
La digestion.
C'est-à-dire que vous pouvez digérer beaucoup plus facilement. Par contre, cumin ou coriandre, ça diminue le feu et c'est pourquoi c'est très intéressant. D'autre part, cumin, coriandre, ainsi que graines de moutarde, sont capables de diminuer l'élément air. Alors quand on diminue l'élément air, c'est-à-dire on n'a plus de ballonnement, on n'a plus ce problème de malaise qu'on sent après un repas ou même pendant plusieurs heures, surtout quand on a fait des mélanges qui ne sont pas très agréables. Il y a fenugrec qui est un élément amer et c'est très très bon pour le foie. Alors chaque fois quand vous prenez un élément amer, ça va vous faire du bien au niveau du foie et systématiquement ça va vous faire du bien au niveau du corps tout entier. Curcuma, ici c'est en forme de poudre, poudre jaune.
Normalement c'est un rhizome, enfin c'est
voilà,
une racine.
Exactement, normalement c'est un rhizome, c'est une racine.
Quel avantage, donc on peut la peler, on peut la gratter, on peut la... La manière la plus courante de la consommer?
Dans l'Ayurveda, toutes formes sont bonnes, mais si c'est frais et juste des petits morceaux de curcuma, ça sera certainement beaucoup mieux. Alors, sinon, même la poudre jaune d'or de cela, simplement par la couleur. La couleur jaune signifie que ça va agir sur le plexus solaire et que le plexus solaire, très souvent, est coincé chez la plupart des gens. Alors, ça ouvre le plexus solaire, ça ouvre le diaphragme et dès que le diaphragme ouvre, la respiration se fait beaucoup mieux. Et pas seulement la respiration. Le diaphragme fait un massage des intestins grêles, des gros intestins. Ça va aussi masser d'un côté le foie, le cœur et tout cela, les poumons, le mouvement de respiration. Ça se fait avec le diaphragme. Alors, dès que le diaphragme s'ouvre, c'est vraiment le soleil qui s'ouvre. Et c'est pourquoi aussi, la plupart des plats, je dirais, dans des pays chauds, il y a plein de curry et des choses comme ça qui ont cette couleur-là. Et c'est simplement la couleur qui agit. Après, curcuma a des vertus fantastiques. C'est un antioxydant, ça purifie le sang, ça fait du bien au niveau des poumons, ça fait bien au niveau de digestion. C'est quelque chose d'exceptionnel, le curcuma.
Vous parliez de la couleur du curcuma, que ces épices sont vraiment, on va avoir plusieurs couleurs. Ça compte aussi dans cet apprentissage de l'alimentation, de comment on mange et ses effets sur notre corps et notre santé?
Tout à fait. Les couleurs agissent énormément. Et les verdures des salades, par exemple, ça touche tout de suite notre cœur, vous voyez, quand une belle salade du jardin, fraîchement cueillie, ça, même si on ne fait que voir, et ça touche le cœur, c'est-à-dire ça ouvre le côté émotionnel, le côté, certaines sortes d'amour, la tendresse et tout cela. De même, la couleur rouge et orange, c'est au niveau du chakra vers le bas, mais cela augmente la créativité, ça augmente aussi ce côté charnel de la personne, le côté fort de la personne. Alors chaque couleur va jouer un rôle important, mais la chose la plus importante, c'est que même si vous ne connaissez rien dans la diététique, aucune science ni rien, simplement essayez d'avoir votre plateau, ce que vous mangez, bien équilibré en couleur, et puis essayez de bien équilibrer dans les goûts. Et vous allez voir que quel que soit le système de jugement ou de calcul que vous pouvez faire, ça sera assez équilibré. Que ça sera point de vue occidental, que oriental, que quelle que soit la méthode, au niveau des calories, ça va tomber juste, au niveau des qualité, comme dans l'Ayurveda et dans le yoga, il y a principalement, on va parler de sattva, rajas et tamas, c'est-à-dire la nourriture qui nous donne la légèreté, la pureté, ça s'appelle la nourriture sattvique. Puis il y a la nourriture qui nous donne de l'énergie, la force, la vitalité, ça c'est la nourriture qu'on appelle rajasique. Et puis, il y a la nourriture qui nous donne de l'énergie, mais une énergie potentielle. Mais en même temps, cela nous donne la lourdeur. C'est-à-dire quand on a mangé une nourriture comment dirais-je, avec des sauces un peu trop grasses et puis tout ça. Des fois, on aime ça, surtout pour des fêtes, et surtout quand c'est bien arrosé avec beaucoup d'alcool et tout ça.
Je ne vois pas du tout ce dont vous voulez parler. Quelle drôle d'idée quand même, les sauces, le gras. Non, on ne connaît pas.
Non, non, il vaut mieux ne pas connaître. Mais quand même, cela nous donne lourdeur. C'est pourquoi l'Ayurveda nous conseillait d'avoir une nourriture qui nous donne la vitalité, qui nous donne la légèreté, qui nous donne une certaine lumière.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde, nous sommes avec Kiran Vyas dans l'un de ses centres ayurvédiques, le centre Tapovan à Paris, rue Gutenberg, dans le 15e arrondissement. On parle bien sûr, puisque c'est Le Goût du Monde, de ce qu'on mange et comment se faire du bien et peut-être prolonger sa vie, en tout cas éviter d'inviter la maladie dans nos vies en mangeant bien. Alors on a entendu depuis le début de cette émission plein de notions. Moi qui suis totalement néophyte, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous qui nous écoutez, ça semble presque un peu inquiétant de se dire, c'est forcément, j'aimerais bien arriver à bien me nourrir, j'aimerais bien appliquer l'Ayurveda. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des petites pierres au début sur lesquelles on peut s'accrocher? Par exemple, le curcuma qu'on pourrait mettre davantage, peut-être du gingembre. Comment est-ce qu'on peut commencer sur cette voie-là, puis au fur et à mesure progresser et apprendre? Mais
tout à fait.
Dites-nous.
Il faut commencer avec un peu de curcuma, qui donne une couleur jaune, et ça n'a pas beaucoup de goût. Ça a un léger goût d'acre ou bien un goût astringent. Puis, il faut aussi mettre un tout petit peu de cumin et coriandre, parce que beaucoup entre nous, on est un peu trop susceptible ou un peu de colère qui est omniprésent, parce qu'on est tellement contrarié et stressé, alors la colère, ça monte. Alors, le cumin et le coriandre, et puis surtout, moi, je conseille aux dames en disant que si vous voulez avoir votre compagnon plus calme, vous n'avez qu'à mettre un peu plus de coriandre et de cumin dans leur plat, et comme ça, vous aurez une vie beaucoup plus agréable et calme et paisible. Alors, ce qui est important aussi, c'est les gaz intestinaux qui nous embêtent beaucoup. Alors ça aussi, il faut équilibrer avec la moutarde ou des graines de moutarde et des choses comme ça. Il y a des épices nobles, avant que j'oublie, c'est-à-dire il y a par exemple du poivre, du safran.
Ça sent tellement bon.
Puis après, il y a aussi
le
badiane,
le girofle. Ça, c'est du poivre long, en fait, que vous avez.
Oui, c'est du poivre long. Et c'est très utilisé pour la santé. En réalité, dans l'Ayurveda, on nous dit que moitié de vos médicaments devaient se trouver dans la cuisine et l'autre moitié dans votre jardin. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un petit jardin, que vous êtes en train d'avoir des plantes aromatiques. Et puis, vous devez avoir des épices à la maison. Comme ça, vous pouvez vous soigner. En réalité, pour la santé et pour la guérison, la première partie, ce sont des épices. Et puis, dans le cas quand on tombe malade, l'Ayurveda va devenir très strict vis-à-vis de la diététique. C'est-à-dire la première façon de se soigner, c'est toujours par la nourriture. C'est la nourriture qui va jouer le rôle important. Parce qu'on considère aussi que 98% des maladies ont leur origine dans le tube digestif quelque part.
C'est ça, on a parlé de digestion, mais on n'a pas encore abordé clairement ce feu de la digestion, il est primordial.
Absolument.
Bien digérer, c'est la condition d'une bonne santé.
Exactement.
Comment ça se passe ?
C'est-à-dire, nous avons 13 sortes de feux selon l'Ayurveda, dont le feu le plus important, c'est le feu digestif, qui doit avoir la capacité de digérer la nourriture. Alors, avec la science moderne, on va dire que ce sont aussi des enzymes, ce sont aussi des sortes de sécrétions qui sont faites par le foie, vésicule biliaire, les sécrétions qui sont faites au niveau de la salive. Alors, ce sont des éléments qui n'est rien d'autre que ce que nous appelons l'élément feu d'une autre façon, c'est-à-dire qui nous aide à digérer, quelle que soit la nourriture. Alors, bien sûr, il faut savoir faire une sorte d'analyse. Alors, la première règle, c'est qu'il faut manger les liquides et il faut boire les solides. C'est-à-dire, quand vous buvez quelque chose, il faut boire doucement, lentement, en savourant le goût de ce liquide, que ce soit l'eau, que ce soit une boisson. Comme ça, ça vous donne le feu nécessaire pour digérer. Parce que même digérer l'eau est difficile. Et puis, chaque fois quand vous devez manger quelque chose de solide, vous avez tellement bien mâché que ça s'est bien mélangé avec votre salive. Et puis, après, seulement, vous avalez. Parce qu'il n'y a pas de dents dans l'estomac, vous savez. On ne va pas pouvoir couper ou faire des choses. Ce qui entre dans l'estomac devrait être bien broyé, bien préparé. Et aussi, il y a le concept de acido-basique, c'est-à-dire d'abord c'est alcalin, puis après ça devient acide, puis de nouveau ça devient alcalin. C'est-à-dire ces étapes sont importantes pour la digestion. Et tout cela, l'Ayurveda appelle ça par l'élément feu ou le feu digestif. Mais il y a aussi toute une préparation. Par exemple, quand vous prenez une petite rondelle de gingembre avec un peu de jus de citron et une petite pincette de sel, vous commencez avec ça, ça va augmenter votre appétit ou surtout ça va augmenter l'élément feu. Alors après, quand vous mangez quelque chose, ça sera beaucoup plus facile à digérer.
Ça se prépare en fait.
Ça se prépare.
Et après, on élimine.
Voilà, l'élimination c'est exceptionnellement importante parce que je raconte toujours la même petite histoire. Par exemple, une fois, j'étais invité à Palais de Congrès. Il y avait beaucoup d'esthéticiennes, vous savez, et on m'avait demandé de parler de l'Ayurveda pour la beauté. Et puis, je suis passé par les stands avec des crèmes de beauté. On mettait une petite pincette de crème sur le visage. Et il y avait des jeunes femmes de 18-20 ans qui étaient déjà belles, sur lesquelles on mettait la crème et leur visage devenait très... Alors il y avait des dames de 50-60 ans qui pensaient qu'elles deviendraient aussi belles en utilisant les mêmes crèmes. Alors je suis passé par tous ces stands et en arrivant dans la grande salle de conférence, et quand je devais parler, les premières phrases qui sont sorties de ma bouche étaient « Si vous êtes constipé, vous allez avoir une beauté constipée. » Dans le sens que, pour la beauté, la chose la plus importante est une bonne digestion, une bonne élimination. Si vous avez bien éliminé, déjà votre visage est détendu. Alors, premier travail selon l'Ayurveda qui est à faire, c'est aussi s'occuper de la digestion. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la beauté, et c'est bon aussi pour le bien-être. Mais aussi, il y a l'élimination des pensées négatives. Oui. Il y a aussi l'élimination de ce que l'Ayurveda appelle les ennemis viscérales, comme la jalousie, comme les doutes, comme l'angoisse, comme la peur, ce sont aussi des choses à éliminer.
L'Ayurveda s'appuie aussi sur les massages.
Alors les massages vont jouer un rôle important dans l'Ayurveda, avec l'idée, c'est qu'il y a des circulations, pas seulement la circulation sanguine, pas seulement la circulation lymphatique, mais aussi dans les 72 000 nadis, des méridiens. Et ces circulations, très souvent, sont bloquées à cause d'une nourriture qui n'est pas bien, à cause du stress, à cause de la fatigue, à cause de ceci, à cause de cela, à cause d'une maladie, ou à cause simplement, il y a des blocages comme ça. Alors ces blocages, on ne va pas tous les jours aller prendre des médicaments, ni consulter des médecins tous les jours que pourquoi ceci, cela. Et les massages, c'est une solution miraculeuse. Grâce à ces massages, on pourrait débloquer ces nadis. La théorie de base, c'est comme dans l'acupuncture. Mais avec le massage indien, c'est encore plus subtil, c'est plus englobant. Et aussi, par exemple, on utilise l'huile, et surtout l'huile de sésame. Alors, l'huile de sésame, ça pénètre la peau et ça va d'abord éliminer le problème de vata. Alors, si vous avez des problèmes de vata, c'est-à-dire des douleurs d'articulation, des douleurs quelque part, ça va diminuer. Après, ça va rendre la peau plus lisse et plus jeune. Après, les mêmes massages, ça va débloquer certains nadis ou certains méridiens. Et à ce moment-là, ça va aider, par exemple, si c'est le méridien du foie, ça va aider le foie, si c'est le méridien de ceci. Après, dans les massages indiens, ce qui est très intéressant, c'est le côté tendresse, amour, cette énergie de subtilité, de cette énergie d'amour qui est là. Et on sent ça, parce que le toucher, c'est par excellence une énergie de l'amour. Et grâce à cette énergie de l'amour, et là aussi on comprend que l'amour, très souvent on a tendance à dire que c'est la sexualité. Mais non, l'amour est universel, c'est une énergie fondamentale. Et grâce à des massages, on arrive à comprendre cette grande énergie qui est l'énergie de l'amour, que ce soit vis-à-vis des bébés, les petits bébés à peine nés, quand sont touchés d'une certaine manière, quand sont caressés d'une certaine manière, quand sont massés d'une certaine manière, les bébés s'épanouissent. Et pas seulement les bébés, leurs mamans aussi s'épanouissent. C'est-à-dire ça commence dès le jeune âge, ces massages-là, et cela continue jusqu'au dernier souffle.
Justement, j'allais vous poser la question de l'Ayurveda. C'est une science qui évolue au fil des siècles. Quelle place elle a aujourd'hui dans la société, en tout cas en Occident?
Les Occidentaux ne connaissaient pas l'Ayurveda, quoique il y avait le concept des druides qui est peut-être resté un peu enterré dans les bandes dessinées, mais c'est vrai qu'il y a cette connaissance cachée qui existait dans tous les pays du monde. Et ces connaissances des plantes, ces connaissances des décoctions, des cataplasmes, des huiles parfumées, toutes sortes de choses qui existaient dans tous les pays du monde. Et l'Ayurveda a aussi utilisé les mêmes principes de base et a continué à garder ces principes. Maintenant, aujourd'hui, l'Ayurveda a pris une place de plus en plus importante parce que déjà, OMS, Organisation Mondiale de Santé, a accepté comme une thérapie par excellence. Dans les pays occidentaux, des fois c'est reconnu certaines choses, des fois ce n'est pas reconnu. Mais ce qui est vraiment senti, c'est le peuple qui a accepté. C'est-à-dire les effets. Je sais que les premières conférences quand j'ai fait sur l'Ayurveda, personne ne connaissait ce que c'était l'Ayurveda, et aujourd'hui, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis quelque part très content et très fier que l'Ayurveda a pu développer bien dans l'Occident.
C'est une tradition dans le goût du monde. On demande généralement un ustensile et un ingrédient. Alors, quel serait l'ustensile et l'ingrédient que vous voudriez partager avec nous?
L'ingrédient sera du curcuma qui purifie le sang et qui est bon pour toutes les maladies et qui est aussi important, pas seulement au niveau de la couleur, mais au niveau du cerveau. Il y a une autre épice que j'appelle poudre rouge, qui est un mélange de fenugrec, qui est amer. Il y a aussi la moutarde, il y a aussi la présence des graines d'anis, graines de coriandre. C'est un mélange des épices, mais c'est un grand équilibrateur, avec présence bien sûr du piment. Et comme ça, ça rend notre vie un peu piquant, mais un peu agréable, mais surtout, c'est quelque chose de magnifique comme digestif. Et au niveau de
l'ustensile,
ce que moi j'ai envie d'aujourd'hui dire, la chose la plus importante, ce sont nos mains et ce sont nos doigts. Parce que chaque doigt a une énergie. Le pouce a l'énergie de l'élément éther ou ciel, l'index a l'énergie de l'élément air, le majeur a l'énergie de l'élément feu, l'annulaire, c'est l'élément ou les sentiments, l'émotionnel, et le petit doigt, auriculaire, l'énergie de l'élément terre. C'est pourquoi quand on dit que c'est mon petit doigt qui sait, on dit c'est élémentaire, vous voyez. Puis, pourquoi on met une bague autour de l'annulaire, parce que c'est lié avec l'élément eau, c'est lié avec les sentiments qu'on a envie de fixer pour toujours. Et surtout, on a observé que le mouvement des doigts, et quand les Indiens mangent avec les doigts, cela fait utiliser leurs doigts. Il y a même des effets sur Alzheimer, qu'on a moins d'Alzheimer quand vous mangez avec les doigts, ou bien si vous faites faire des exercices avec le bout des doigts.
Et puis c'est sensuel de manger avec les doigts.
Absolument. Tout à fait. Alors, moi je dirais que ce sont les mains, parce que moi, même quand je cuisine, j'utilise les bouts des doigts pour utiliser telle chose ou telle chose. Et c'est simplement, c'est la magie des doigts.
Merci Kiran Vyas, merci beaucoup pour ce voyage, de votre accueil. Les adresses des centres Tapova, notamment celles de votre centre en Normandie, seront sur la page du Goût du Monde, ainsi que eh bien, toutes les adresses et coordonnées de vos livres, parce que vous êtes un grand écrivain. Le Yoga des Yeux est paru tout dernièrement, le Grand Guide de l'Ayurveda évidemment, chez Marabout, les recettes végétariennes de l'Inde, ça c'est chez La Plage, ou encore Bien-être par l'Ayurveda. Donc toutes ces références seront sur le site internet du Goût du Monde sur RFI. Que vous inspire l'Ayurveda? Est-ce une science que vous connaissez, qui fait partie de votre vie ou de vos traditions? Racontez-nous en un mot, en son, en vidéo, c'est un peu vous qui choisissez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Richard Rifono, Cécile Bonici, pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster le jour comme la nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.
Bhargo Devasyati Mahi Dhiyo yo na prachodayat.